Europe 1 Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Et place à Panorama jusqu'à 20h. Et ce printemps pluvieux fait sans doute le bonheur des jardiniers. Le jardin dans tous ses états, c'est notre thème de discussion avec des professionnels, ceux qui dessinent les jardins, qui les font vivre, qui en font des œuvres d'art pour certains, qui les cultivent, qui les transforment. Bonsoir à mes invités, bonsoir Chantal Collet-Dumont.
Bonsoir.
Vous êtes directrice du domaine et du Festival des Jardins de Chaumont-sur-Loire qui a commencé le 25 avril et qui se termine le 5 novembre. Bonsoir à Olivier Puech, jardinier potagiste, animateur d'une chaîne YouTube que vous regardez peut-être qui s'appelle Le Potager d'Olivier, qui a déjà plus de 400 000 abonnés. Et dans un instant, Bonsoir. Nous serons avec Pierre-Alexandre Risser, qui est jardinier paysagiste et qui est auteur de ce site horticultureetjardin.com. Bonsoir Capucine Patouillet.
Bonsoir Pierre.
D'abord avec vous, on va faire le point. Combien de Français ont la main verte ?
Eh bien, en se basant sur une étude IFOP réalisée en 2021, nous serions plus de 17 millions à jardiner, à la mesure de nos moyens et de nos capacités, bien sûr. Alors, selon cette étude, qu'ils aient un jardin ou non, près de 8 Français sur 10 aiment être entourés de plantes, un synonyme d'apaisement. Et ces plantes, 7 Français sur 10 en prennent d'ailleurs soin, voire sont affectées quand l'une d'entre elles meurt, pour 68%.
Cette passion du jardinage, comment est-ce qu'ils l'expriment ?
Alors pour la majorité d'entre eux, l'idée c'est de se relaxer, et ce davantage encore pour les femmes apparemment que pour les hommes. L'une des explications selon cette enquête IFOP serait une plus forte charge mentale pour nous les femmes. L'autre point fort, c'est l'idée de convivialité, puisque pour près d'un Français sur deux, avoir un jardin, eh bien ça permet de réunir la famille et les amis. Enfin, plus d'un Français sur quatre voit un atout pour la qualité de vie, permettant aux enfants de jouer dehors ou un peu plus terre à terre, d'embellir son bien immobilier. Concernant les pratiques de jardinage, 2 possesseurs de jardins sur 3 confient utiliser de plus en plus des produits respectueux de l'environnement pour leurs plantes ou pour leurs pelouses. D'ailleurs, la tendance de la pelouse sans défaut et rasée de près n'est plus à l'honneur, puisqu'à peine un Français sur 3 y tient encore. Un dernier enseignement de cette étude, c'est que 12% des propriétaires ont déjà fait appel à un professionnel pour les aider à entretenir ce jardin. Aujourd'hui, le marché du jardinage a de beaux jours devant lui, puisqu'il pèserait plus de 6 milliards d'euros.
Ah oui, quand même, 6 milliards d'euros. Merci pour ces précisions, Capucine Patouillet. Chantal Collet-Dumont, le domaine de Chaumont se met non pas ouvert parce qu'il est ouvert pratiquement toute l'année, mais c'est peut-être la plus belle façon de démontrer qu'un jardin est une œuvre d'art, c'est le fait d'en faire un festival.
Absolument, c'est un festival qui a plus de 30 ans, puisqu'il est né en 1992. Et chaque année, nous avons une trentaine de nouveaux jardins qui sont de véritables créations, qui sont réalisées par des paysagistes, mais aussi des artistes, des designers, des architectes qui viennent du monde entier et qui nous immergent dans une œuvre d'art, au fond. Et je dis toujours qu'un jardin, c'est une œuvre d'art totale, puisqu'on utilise la vue, l'odorat, on entend le chant des oiseaux, le bruit des fontaines, et c'est vraiment un art tout à fait extraordinaire. Et je comprends la passion des Français pour les jardins, et nous on essaie d'amener ces paysagistes du monde entier à créer des œuvres sur une thématique particulière.
Cette année, peut-être, on parlera. Et là, c'est le jardin résilient, on parle du dérèglement climatique, bien sûr. Donc on fait quoi ? On fait un jardin avec en essayant de pas trop abîmer, pas trop de... Quelle est l'idée ?
La résilience, on parlait récemment avec Boris Cyrulnik, c'est de faire d'une difficulté une force. Il est clair que nous sommes confrontés au réchauffement climatique, que l'eau parfois manque, l'ombre manque, etc. Or, le jardin est absolument indispensable. Donc, nous avons demandé, par l'intermédiaire d'un concours, comme chaque année, à ces paysagistes de donner des réponses. Et les réponses, elles sont peut-être liées à des systèmes d'irrigation anciens qu'on va réactiver, à la mise en évidence de voûtes vertes. Ouais. L'ombre est indispensable. Il y a la possibilité aussi d'avoir des jardins qu'on arrose moins. Mmh. On a un très très grand paysagiste britannique qui s'appelle James Besson, à qui j'ai confié la mission de créer un jardin extraordinaire, mais qu'on arroserait moins et qu'on ne tondrait plus. Il ne s'agit pas pour tout le monde d'avoir ce type de jardin, mais les gazons qu'on évoquait, qui sont un peu moins à la mode et qui demandent beaucoup d'eau, peut-être peuvent-ils, dans certains cas, être remplacés par ces jardins secs. On a aussi réfléchi avec Bas Metz, un très grand paysagiste belge, aux arbres du futur. Il a créé une sorte d'amphithéâtre dans lequel il a planté 27 espèces d'arbres susceptibles de résister au réchauffement climatique. Donc c'est ça, la thématique du jardin résilient, c'est essayer de sensibiliser les gens à travers des jardins merveilleux à ce que l'on peut faire.
Donc là, combien de participants? C'est une sorte de concours? À la fin, il y en a un qui gagne?
En fait, ceux qui sont là ont déjà gagné. On a 30 nouveaux jardins chaque année, ouais. 25 issus du concours international, ouais. On en avait 300 au départ, ouais. Et 5 qui sont des invités spéciaux. Il n'y a pas de gagnants, ils sont tous gagnants.
C'est comme à l'école des fans avec Jacques Martin, paix voilà. À son âme. Olivier Puech, on parlait de l'eau et on a des trombes d'eau là, qui sont tombées sur Paris il y a quelques minutes, quelques heures. Ça fait du bien, l'eau, on en a besoin en ce moment. Comment est-ce que vous voyez les choses ?
L'eau, c'est juste essentiel. Vous savez, je fais souvent le parallèle avec le jardinier. Nous, en tant qu'hommes, si on se prive d'eau, on ne tiendra pas plus longtemps que quelques jours. C'est pareil pour un potager qui est un monde vivant. C'est pareil pour un jardin qui est un monde vivant. Donc vraiment, moi, depuis que je suis jardinier, je peux vous dire que je vois la moindre pluie comme quelque chose de divin, comme quelque chose vraiment d'essentiel. Et mon rôle même de jardinier responsable, c'est justement d'optimiser chaque goutte d'eau, de la préserver, de la faire aller dans mon sol, de la destiner aux racines de mes plants de légumes. Il faut aujourd'hui qu'on soit des jardiniers responsables, en fait.
Ouais, et donc du coup, ce thème à Chaumont du jardin résilient, ça vous parle ?
Ça me parle énormément. Tout ce que racontent les invités me parle énormément, déjà dans ce sens d'existence, de sens qu'on donne au jardin, qu'on donne au potager. Moi, je sais que sur ma chaîne, je passe mon temps à donner la parole au geste, à l'image, l'odeur. Je ne peux pas le transmettre par l'écran, mais on le devine quand on récolte, le goût. Tout ça, ce sont des choses essentielles, ce sont des sens, ce sont de l'existence. Vous savez bien qu'on a une société assez bouleversée, assez chaotique. Moi, le premier, je travaille beaucoup, mais quand je suis dans mon potager, quand je suis dans mon jardin, c'est un véritable oasis d'existence, de sens, de ressourcement, et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Ensuite, sur cette notion de résilience, effectivement, vous parliez que vous aviez eu de la pluie. Moi, je ne l'ai pas eu, je suis dans le sud de la France.
Oui,
je suis le premier concerné par ce réchauffement climatique, et honnêtement, c'est un véritable défi qui s'accentue saison après saison. Ouais. L'année dernière, ça a été terrible. On a eu vraiment des canicules féroces. Néanmoins, le potager s'en est sorti par des défis. Vraiment, le jardinier devient un héros, mais il y arrive. On arrive à tout, de toute façon. Donc, il faut se battre contre la température, essayer d'ombrager, on vous en parlait tout à l'heure, par des arbres, par des canisses, par des solutions végétales. Le paillage aussi, pour ombrager le sol, qui lui aussi a besoin d'ombrage. Et faire en sorte vraiment d'optimiser la moindre goutte d'eau qui se fait de plus en plus rare.
Optimiser, je garde ce mot pour Pierre-Alexandre Risser qui nous a rejoint. Bonsoir. Vous êtes jardinier, paysagiste. On peut aller sur votre site qui est absolument merveilleux. C'est-à-dire que même sans jardin, on peut aller sur votre site et on est apaisé. horticultureetjardin.com. Pierre-Alexandre Risser, dans l'idée de la résilience, et abandonnons deux secondes l'idée de, en tout cas la thématique de l'eau, on peut vraiment sur mesure, et c'est ce que vous faites, c'est votre quotidien, sur mesure, créer cet apaisement quotidien pour des familles, pour des gens qui voudraient avoir ici un petit bout de verre, que ce soit sur un balcon, un étage, une terrasse. C'est ça que vous faites, et vous rendez d'une certaine manière les gens heureux.
Bien entendu, aujourd'hui, faire un beau jardin, si vous voulez, c'est quelque chose... Sans vouloir jeter des fleurs, c'est assez simple. Par contre, faire un jardin qui va répondre aux usages de la personne qui va habiter ce jardin, cela c'est un petit peu plus compliqué. Et notre défi est là, c'est de rendre, si aujourd'hui le citadin a un jardin, une terrasse, si vous voulez, c'est pour pouvoir vivre dans son jardin. Le jardin est devenu une pièce extérieure. Au niveau de la résilience, je voudrais ajouter une chose par rapport à tout ce qui a été dit, c'est qu'il faut prendre conscience qu'il faut soigner nos sols. Si la vie est aujourd'hui sur Terre, c'est que les sols se sont formés et avec des sols en bonne santé dans lesquels on va remettre du carbone, on aura beaucoup plus d'eau et l'importance aussi de planter des arbres.
Oui, il y a d'ailleurs un monsieur d'origine indienne dans une université américaine, je ne sais plus son nom, qui parle souvent de ça et qui intervient dans de nombreuses conférences dans le monde entier sur cette nécessité d'améliorer le sol. Chantal Colledumont, vous vouliez rajouter quelque chose sur justement cette thématique du sol?
Nous sommes tout à fait d'accord avec Pierre-Alexandre Risser sur l'importance par exemple du BRF, le bois raméal fragmenté. Ce sont les brindilles, les branches qui viennent des arbres et qu'on peut utiliser en couche épaisse pour enrichir le sol. Et on a tellement abîmer le sol. On a beaucoup bétonisé, on a utilisé beaucoup de produits chimiques et il faut absolument continuer à enrichir et respecter le sol.
Oui, respecter le sol. Olivier Puech, dans vos vidéos que vous postez, qu'est-ce que vous faites exactement pour ceux qui n'ont jamais vu et qui vont se précipiter maintenant sur leur smartphone? Qu'est-ce que vous leur proposez?
J'essaie de leur proposer le quotidien d'un potager, de le rendre le plus accessible possible. Vraiment, mon défi, c'est, Capucine le disait tout à l'heure, il y a 17 millions de jardiniers, c'est vraiment essayer de démocratiser au maximum la pratique du potager. Après, vous parliez tout à l'heure de sol, eh bien, c'est une thématique qui est abordée constamment. Je me régale de me sentir utile à vraiment donner cette vision du sol aux gens. Je vous parlais tout à l'heure de la pluie, je ne la vois plus pareil depuis que je suis jardinier, mais le sol, c'est pareil. Moi, j'ai des parcelles au potager, je n'ose plus y marcher dessus, déjà pour ne pas créer de compaction, pour que la pluie puisse s'infiltrer dans mon sol plutôt qu'elle reste en surface, qu'elle se fasse évaporer, qu'elle ruisselle à la mer. Mais aussi, comme le disaient les invités, c'est pailler en permanence, apporter du BRF, de la paille, du foin, des feuilles mortes. Tous les résidus végétaux de mon environnement sont recyclés sur place. Il faut voir aussi le jardin, le potager, comme des usines à recycler, hein, des transports qu'on évite à la déchetterie. On sait qu'aujourd'hui, le transport, c'est anti-écologique. On recycle tout sur place. Mmh. On crée le sol de demain. Et ça, c'est, je vous parlais tout à l'heure des jardiniers responsables. Donc, je montre à la fois comment faire pousser des carottes, semer une graine tous les 3 cm. C'est toujours utile. Je montre le geste. Mais aussi, constamment, on parle de ces problématiques. Comment faire pour avoir un bon sol, essayer de laisser le motoculteur au garage, choisir des outils beaucoup plus vraiment attentionnés, la grelinette, le croc. Moi, je sais que, par exemple, je jardine sans aucun engin à pétrole qui vont faire du mal à notre sol.
Oui, justement. Alors, j'ai retrouvé quand même le monsieur dont je vous parle et ça vous intéressera, c'est le professeur Ratan Lal. Oui. Il est professeur de sciences du sol à l'université de l'Ohio. J'ai entendu un invité au téléphone dire qu'il le connaissait, je crois.
Oui, il est connu. Puis vous savez, même en France, moi encore, là, il y a peu, je suis démarché par des initiatives européennes pour faire connaître au public les projets européens pour le sol de demain, pour le sol agricole, mais aussi pour le sol. Je veux dire, on est tous acteurs de notre sol de demain. On sait aujourd'hui qu'un sol, s'il n'est pas chaotiquement travaillé, s'il n'est pas tassé par le tracteur, il va pouvoir capter une pluie de 50 litres à l'heure, de 100 litres à l'heure, alors qu'un sol qui est compacté, qui est tassé, va ne capter que 10 litres et les 40 autres litres vont ruisseler, vont faire les inondations dramatiques qu'on voit parfois. C'est de l'eau qu'on va perdre, alors qu'un sol spongieux, un sol éponge, change toute la donne, parce qu'on l'a dit en début d'émission, l'eau c'est la vie et sans elle, rien ne pousse, que ce soit au jardin ou que ce soit au potager.
Pierre-Alexandre Risser, sur justement la question du sol.
La question du sol, elle est essentielle. En France, on a des grands noms comme Marc-André Selosse, Corinne Schreiber, Dominique Stoppner, François Mullet. C'est vraiment des grands noms. C'est une révolution, si vous voulez. Il y a encore 20 ans, les micro-organismes du sol, on n'en parlait pas, les relations entre les champignons et les racines. J'ai fait des études agricoles dans les années 70, on disait que c'était un parasitisme inoffensif, si vous voulez. Donc c'est vraiment quelque chose de relativement nouveau. Et la première grande catastrophe écologique moderne de l'agriculture, ça s'est passé au Texas dans les années 20, et il n'y avait pas de produits chimiques, il n'y avait pas d'engrais chimiques, c'était dû au labour, c'est-à-dire que labourer les sols, c'est une hérésie. Le croissant fertile, il y a l'agriculture s'est développée au croissant fertile du côté de Bagdad. Ensuite, vous avez des villes qui se sont formées comme Athènes, comme Rome. Si vous regardez une photo aérienne de ces villes aujourd'hui, c'est des déserts, il n'y a plus de sol. 3000 ans de labourage, il n'y a plus de terre. Donc la première chose qui détruit le sol, c'est le travail du sol.
donc le sol, et ensuite, effectivement, pour faire ces beaux jardins que vous réalisez, Pierre-Alexandre Risser. Quelles sont les demandes particulières quand vous allez chez les gens qu'est-ce que, je me souviens très bien d'un faiseur de chemises, d'un fabricant de chemises très, très connu à Paris, de la place Vendôme. On lui avait demandé quelle était la réalisation la plus incroyable qu'on m'avait demandé. Et le patron, justement, de cette maison lui avait répondu: on m'a demandé de faire une chemise pour un chimpanzé. Quelle est votre demande la plus incroyable, Pierre-Alexandre Risser?
La demande la plus incroyable, je ne saurais pas répondre comme ça, si vous voulez. Pour moi, vraiment quelque chose qui m'a apporté énormément de satisfaction, c'est un jour un client qui avait un hôtel particulier à Paris me montre tous les travaux qu'il a fait, et puis il m'a dit: pour les travaux, vous verrez avec ma femme, vous me direz combien ça coûte. Voilà, j'ai trouvé ça un peu... Donc j'ai vu avec sa femme, on a dessiné le jardin, et puis 3 mois après, sa femme me dit: bah, écoutez, mon mari, quand il part travailler, il fait le tour de son jardin, et chaque fois qu'il rentre le soir, il fait le tour de son jardin. Pour moi, c'était le plus grand compliment. Ouais. C'est, voilà,
d'avoir touché des gens. Vous êtes tombé sur un client sans doute très pudique qui voulait faire plaisir à sa femme.
Non, mais si vous voulez...
Nous sommes plusieurs comme ça.
Au niveau de la demande du client, c'est difficile. C'est comme si moi, vous me demandez, quelqu'un qui va faire une installation informatique dans mes bureaux, va me demander ce que je veux. Je ne sais pas, je ne connais pas. Donc les clients, si vous voulez, il faut écouter, regarder comment ils vivent, et ensuite les emmener là où on pense qu'ils seront bien. C'est-à-dire qu'un jardin aujourd'hui, c'est un jardin qui doit donner le maximum de plaisir, minimum de contraintes, et il faut travailler avec la nature, si vous voulez, pour que le jardin, justement, ait un minimum de contraintes. Si vous voulez planter un arbre à un endroit, vous faites en sorte que l'arbre, quand il sera adulte, il y aura de la place, et pour ses racines qui représentent un tiers de volume de l'arbre, et pour que l'arbre puisse s'épanouir. Aujourd'hui, on fait des jardins dans lesquels on doit avoir un minimum d'arrosage, aucun engrais chimique, aucun produit phytosanitaire. Et ça, pour ça, c'est planter la plante, la bonne plante, au bon endroit.
Chantal Collet-Dumont, on entend l'inventivité d'Olivier Puech et de Pierre-Alexandre Risser. Comment réagit le public quand il vient à votre festival? Est-ce que ce sont des gens qui n'ont, par exemple, jamais eu la main verte et se disent: tiens, je vais quand même aller voir? Et j'imagine qu'il n'y a pas que des passionnés.
En fait, nous avons un public récurrent. J'ai tendance à dire que quand on vient une fois à Chaumont, on a envie d'y revenir.
C'est addictif.
C'est addictif, et bon, je pense que tous les trois, nous travaillons sur une bonne addiction. On a besoin de vivre dans les jardins. 80% des gens vivent en ville, ils vivent dans le béton, ils vivent dans le ciment. Et il y a une toxicité réelle due à l'actualité. Ouais, ouais. Et donc, quand on est dans un jardin, c'est prouvé scientifiquement, il y a un abaissement du stress. Les arbres émettent des ondes positives, enfin, en tout cas, des éléments chimiques qui font qu'on est vite apaisé. Et passer une journée dans nos jardins et dans tous les jardins fait énormément de bien. Il y a l'effet sur les sens, l'effet sur l'esprit. Je dis toujours, je cite cette phrase de Foucault: chaque jardin, c'est la plus petite, un jardin, c'est la plus petite parcelle du monde, et c'est la totalité du monde. On est bien dans un jardin. Il y a un pouvoir thérapeutique, et je pense que l'on va avoir de plus en plus besoin de ces jardins pour se guérir de tous les maux qui sont présents.
On le voit d'ailleurs avec les urbanistes modernes qui remettent le jardin à la page.
On a besoin du jardin pour l'esthétique, on a besoin du jardin pour abaisser les températures. On sait que dans les villes, il y a des expériences assez fréquentes qui sont faites. Quand il y a des arbres et quand il n'y en a pas, il y a parfois une différence de 10 degrés. Mmh. Donc c'est tout à fait fondamental, et il faut cultiver le goût et le désir du jardin chez les enfants.
Olivier Puech, en quelques secondes, parce que le temps nous manque, j'ai un ami qui me disait: mais tu ne cours pas, mais t'inquiète pas, on ne fait pas du jour au lendemain un marathon, mais tu cours d'abord, tu commences à courir 100 mètres, puis ensuite c'est 1 km, puis ensuite c'est 10 km. Est-ce qu'on peut commencer par un pot de fleurs pour ensuite faire un jardin, et si oui, lequel?
Oui, bien sûr. Moi, je vous parlerai peut-être un peu plus de potager parce que je suis tellement passionné de potager, mais j'ai envie de dire, alors, si vous avez le moindre mètre carré, que ce soit de terre, de balcon, mettez un pot, mettez un bac potager et semez à la folie parce que chaque graine, c'est magique. Hein. Vous semez un gramme, une graine qui va faire un gramme et vous allez récolter 5 kilos de tomates. Vous allez voir un arbre pousser. Enfin, il faut vraiment peut-être redonner une priorité totale à ce geste symbolique tellement fort de semer. On sème la vie, on sait tout ce que c'est qu'une petite graine qui donne vie, mais c'est pareil pour nos jardins, c'est pareil pour nos potagers. Soyons acteurs de tout ça et semons.
Eh bien, nous irons voir le potager d'Olivier, c'est votre chaîne YouTube. Nous irons voir votre site et les livres que vous avez écrits, Pierre-Alexandre Risser. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, Chantal Colle-Dumont. Le domaine de Chaumont-sur-Loire vous accueille dès le 25 avril. Donc, c'est maintenant, c'est jusqu'au 5 novembre. Allez donc voir justement ce beau festival. C'est fini pour nous. Et je laisse la place à Lionel Rousseau. Bonsoir Lionel.
Bonsoir Pierre Devineau. Europe 1 Sport arrive bien sûr comme chaque soir entre 20h et 23h avec un grand match de football ce soir. Le choc des extrêmes entre l'Estac, entre l'équipe de Troyes et le Paris Saint-Germain qui traverse toujours le psychodrame Messi entre autres choses. Mais des débats à venir également autour de Lens qui est peut-être finalement la meilleure équipe de France puisqu'il s'est imposé contre Marseille et qu'elle talonne le PSG désormais. A tout de suite sur Europe.
A tout de suite.